Pour nous, le message principal est que le nombre de personnes affectées par le désastre sont très, très, très majoritairement dues au désastre climatique, c'est-à-dire météorologique, climatique et hydrologique, donc inondations, orages, des températures extrêmes, donc vagues de chaleur, vagues de froid, et la sécheresse. Ceci sont les quatre types de désastres qui expliquent la majorité des gens qui sont grièvement affectés par ces désastres, et ils sont tous dus au changement de climat.
Dans le rapport, vous ne couvrez pas cet aspect de COVID-19.
Non.
Mais dans quelle mesure le rapport que vous faites montre le niveau de souffrance humaine et des pertes économiques de façon générale, même si on ne tient pas compte de la pandémie de COVID-19?
D'abord, je trouve que les pertes économiques dues au désastre sont très, très mal enregistrées ou évaluées dans les pays pauvres. Les pays qui ont le plus besoin de savoir quelle était la perte économique, ils ne rapportent très peu, très peu. Presque 2/3 des événements dans les pays pauvres ne rapportent rien.
Pourquoi?
À mon avis, pour vraiment vous dire franchement, je crois qu'il y a 2 facteurs. Une, c'est qu'il n'y a pas de méthode ou des outils pour faire une évaluation correcte. Et ça, c'est le problème de la communauté internationale, de UNDRR et la Banque mondiale. Ils n'ont pas proposé des outils adéquats pour pouvoir évaluer ces pertes. Donc, le pays n'a pas avec quoi évaluer ça. Ça, c'est la première chose. Manque d'outils et manque de méthodes. Deuxième chose, rappelez-vous que la plupart des pays pauvres, ce sont des secteurs informels. Ça veut dire que c'est très difficile. C'est même l'habitation sont, si vous voulez, secteurs informels. À ce moment, ça devient très difficile de faire une évaluation de la perte parce qu'on ne sait pas comment quantifier. La jeune femme qui vend des fleurs à côté de le trottoir ou des cacahuètes du côté des trottoirs, on ne sait pas comment le quantifier. C'est ça le problème.
Donc, pour revenir à ces pertes économiques, quand le rapport montre que c'est pratiquement entre 2000 et 2019, c'est plus de 7000 catastrophes majeures enregistrées, 1,23 million de victimes et touchant 4,2 milliards de personnes, comment analyser, décrypter ces pertes économiques mondiales d'environ 3000 milliards de dollars américains?
Oui, mais la plupart des pertes économiques que nous rapportons, que vous voyez dans ce rapport, en fait, vient des pays riches. C'est ça. Moi, je dirais que de loin, la proportion de cette perte économique vient des pays occidentaux. Donc, le pays pauvre ne figure même pas dans ce chiffre. Toute la perte économique que vous voyez, ça, c'est la perte économique aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Allemagne, en Angleterre, etc.
Et ça veut dire que si un pays en développement, comme un pays africain, est touché, ça a moins d'impact économique ou c'est parce qu'il n'y a pas une politique d'assurance là-bas?
Il n'y a pas d'assurance, mais même s'il n'y a pas d'assurance, ça c'est clair. C'est parce que beaucoup de pertes économiques viennent d'assurances et ces agences d'assurance ont une pénétration extrêmement faible dans ces pays. Ça c'est clair. Mais aussi, je trouve que nous n'avons pas de méthode correcte de pouvoir estimer des pertes économiques pour toutes les pertes qui ne sont pas assurées. La plupart des gens ne sont pas assurés dans tous ces pays. Donc, il faut avoir une méthode, il faut avoir des outils pour pouvoir capter, même pas très précisément, mais grosso modo, capter la perte économique qui n'est pas assurée. Et ça, nous n'avons ni l'outil, ni, je dirais, quelque part, ni l'intérêt politique.
Pour revenir au rapport concrètement, il note qu'il y a eu 3656 catastrophes liées au climat entre 80 et 1999 et 6681 entre 2000 et 2019. Cela nous dit quoi sur l'état du climat dans le monde?
C'est vraiment un témoignage de l'échec que nous faisons face à des contrôles de l'aspect climatique dans le monde. C'est-à-dire, nous n'avons pas pu, pendant tout ce temps, avec toutes les mesures qu'on dit qu'on fait, les différentes sondages, les normes de diminuer le global warming à ceci et cela, avec tout ça, moi, je dirais, les chiffres parlent la vérité. Les chiffres parlent la vérité et nous ne sommes pas, en fait, arrivés à une diminution de l'impact climatique. Donc, cette mesure-là montre que c'est une guerre que nous perdons, nous sommes en train de perdre.
Et pour illustrer cela, on voit aussi que les inondations, le nombre des inondations a presque doublé. Doit-on s'attendre à plus de fréquence de ces phénomènes, c'est-à-dire les inondations et les tempêtes dans le monde?
Toutes les deux sont directement en fonction du climat, c'est-à-dire la précipitation intense. pour les inondations, souvent, mais pas toujours. Et le problème météorologique important de le global warming qui fait que nous avons des turbulences qui font des énormes orages que nous sommes en train d'avoir aux États-Unis maintenant. Maintenant, ces précipitations intenses et l'orage et certainement l'inondation, c'est aggravé par une urbanisation qui est totalement sauvage. On couvre avec le béton des énormes espaces qui fait que quand il y a de l'eau, il n'y a pas de terre pour absorber l'eau. Donc, il accumule et il y a une espèce de flot de l'eau qui augmente leur puissance et il y a des inondations importantes dans les villes et autour des villes. Donc, il y a une coïncidence des problèmes climatiques et une mauvaise gestion aménagement des territoires qui fait qu'il y a beaucoup plus d'inondations et pour l'orage, il y a aussi la qualité des maisons, la qualité de l'infrastructure, la maison des gens qui sont de plus en plus fragiles parce qu'il y a un certain niveau de pauvreté qui s'incruste et alors quand il y a des orages, il y a des dommages importants qui tuent des gens aussi. Hein.
Et pour maintenant une analyse géographique, l'Asie a subi le plus grand nombre de catastrophes suivies par les Amériques et l'Afrique. Mais dans l'ensemble, 8 des 10 pays les plus touchés par les catastrophes se trouvent en Asie. Comment l'expliquez-vous?
Je ne sais pas. J'ai déjà qu'il y a une partie topographique parce qu'il y a d'énormes fleuves éparpillés partout dans le continent. La population est extrêmement élevée et extrêmement dense, beaucoup plus qu'en Afrique. Et c'est une population plus pauvre qu'en Amérique latine. Donc, en Afrique, il y a quand même, heureusement pour eux, il y a quand même un certain espace qu'ils ont toujours. Jusqu'à maintenant, ils l'ont toujours. Il y a des urbanisations qui se forment. Et en général, l'Asie est extrêmement dense, qui fait que le moindre dérapage fait des dégâts énormes et affecte beaucoup de gens. Donc, nous avons aussi une situation dans laquelle la probabilité d'inondation est très élevée. Le système météorologique pour les orages se trouve beaucoup dans les baies de Bengale et la mer de Chine du Sud, donc il y a une certaine turbulence. Et il y a des densités de population et une certaine urbanisation qui est beaucoup plus rapide et plus grande qu'en Afrique.
Dernière question, vous dites que si ce niveau de croissance des phénomènes météo extrêmes se poursuit au cours des 20 prochaines années, l'avenir de l'humanité s'annonce très sombre. Pourquoi êtes-vous si pessimiste?
Je ne suis pas pessimiste. En fait, moi, je trouve que le GIEC prévoit des grandes augmentations, des inondations, des extrêmes températures. Et notre donnée le montre dans les derniers 20 ans, que c'est effectivement ça. Je trouve qu'il faut quand même, il faut qu'on prenne ces événements plus en sérieux dans le cadre de développement que nous avons fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était toujours un peu désastre, c'est un chemin parallèle, c'est la réponse des Croix-Rouge, ce n'est pas de développement, c'est autre chose. Je trouve qu'il faut maintenant l'incorporer dans les stratégies de développement, dans les stratégies planning nationales, beaucoup plus. Et je crois que certaines choses, certains désastres ici, on peut faire quelque chose. L'extrême température, la vague de chaleur dans les pays pauvres, il y a moyen de faire quelque chose. On ne peut pas prévenir les désastres, mais on peut avoir des mesures en place pour protéger les populations les plus vulnérables, les gens qui travaillent dans la construction ou d'autres métiers un peu exposés. Il y a moyen de mettre des mesures en place et les implémenter. Non, il y a moyen de faire certaines choses, oui, certainement.
Parmi les choses qu'on doit faire, quelle serait la plus urgente pour un peu limiter les dégâts?
Moi, je trouve, franchement, c'est l'inondation parce que nous avons les technologies. Même les technologies à bas coût pour réduire l'impact des inondations, ça existe. Donc, on peut décider de mettre ça en priorité dans les régions qui sont à haut risque d'inondation. Et on le sait qui sont les régions à haut risque. Deuxième chose, pour la température de vagues de chaleur, je trouve que c'est surtout des mesures qui sont moins chères, c'est-à-dire éduquer la communauté, éduquer le secteur de santé pour pouvoir protéger de la chaleur comme on peut pour les tout petits et pour les gens plus âgés. Il y a moyen de faire de ces deux-là, je trouve en anglais, on dit « low hanging fruits », c'est des mesures qu'on peut prendre et que nous allons avoir le meilleur rendement.